Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et c'est toujours l'émission Alors on se fait un film, une émission spéciale qui dure 2 heures car nous faisons donc notre top 5 de l'année 2024, enfin du premier semestre 2024. Et donc vous venez d'écouter une partie de la bande originale du film Dune qui a été créée par Hans Zimmer, la bande originale. Et donc nous continuons car nous avons fait le numéro 5 et numéro 4 et maintenant c'est le numéro 3. Gob, je te laisse la parole.
Alors on a eu ce petit débat justement sur la place accordée aux films dans les salles et des fois c'est difficile de les voir. Mais là c'est un film que je pense qu'il tombe en plein dedans. C'est un film qui s'appelle Rapture, qui est passé de façon assez météoritique au Carme, que je suis allé voir, on était deux dans la salle. Un après-midi, c'est un film formidable, absolument formidable. C'est un film d'un jeune réalisateur indien qui s'appelle Dominique Sangnam, qui vit en Suisse, qui a pu retourner dans sa région natale de l'Inde pour tourner ce film qui raconte son enfance. Claude parle souvent de la mise en scène. C'est un premier film, c'est absolument bluffant. Ça commence par un plan séquence qui, je pense, restera comme un des plus beaux de l'histoire du cinéma. Ça continue sur le même rythme. Une suite de plans séquences d'une beauté hallucinante. C'est un récit d'apprentissage. Ça parle de l'Inde contemporaine à travers des souvenirs qui remontent plutôt aux années 70, on va dire 80. Mais à travers cette histoire de souvenirs, il parle aussi de l'Inde contemporaine, de tout ce qu'elle a encore d'archaïque, d'un pouvoir qui entretient les discordances religieuses, des castes. Quelque part, c'est aussi des gens qui sont sacrifiés à une idéologie religieuse. Qui les manipule, et puis surtout c'est un film à hauteur d'enfant, c'est un conte, il y a une dimension onirique qui est absolument prégnante dans le film, et puis surtout voilà c'est un formidable livre d'images. Moi j'ai été scotché, mais vraiment scotché par la beauté de chaque plan. Chaque plan est composé d'une manière géométrique. Moi j'avais l'impression de revoir des films de Wuxia Haoxian des années 90 avec ce cadre magnifiquement composé. Il se passe toujours quelque chose dans un coin de l'image. Les personnages ont un vrai rôle à jouer dans chaque coin de l'image et tout ça donne un résultat absolument époustouflant et c'est un premier film. Moi je dis chapeau et vraiment, vraiment, j'attends la suite de la carrière de ce réalisateur.
Ok, Rapture de Dominique Sangma. Merci beaucoup, Gob. Claude, ton numéro 3.
Mon numéro 3, c'est un film dont tu as parlé, qui s'appelle le film de Delphine Girard.
Quitter la nuit.
Quitter la nuit, que j'ai vu deux fois. Et je l'ai vu à Angers, d'ailleurs, où j'ai rencontré la réalisatrice. Et puis je l'ai vu ensuite à Annonay, où je n'ai pas pu imposer ce film pour un second prix, pour le prix spécial du jury. C'est deux femmes qui ont fait...
Il t'écoutait pas là-bas, Claude. Hein.
Non, c'est deux... Non, j'ai été désavoué constamment. C'est deux femmes qui ont fait basculer le film pour pas qu'il soit récompensé. Ça m'a étonné. Alors, j'ai le résultat. Je sais pourquoi une a fait basculer le film. C'est un peu ce qui m'arrive avec Dissidente. C'est qu'en fait, elle avait déjà... Il y a déjà eu un court-métrage sur ce film.
Oui.
Et le court-métrage, c'est uniquement tout à fait le début du film. Et la réalisatrice, elle a eu cette idée de film à partir d'un soir où elle était au Canada, elle écoutait une émission américaine où il y avait effectivement cette alarme faite pour cette femme qui était en danger dans une voiture. Et ça a été le court-métrage. Elle avait vu le court-métrage. Mmh. Et elle a dit, j'ai beaucoup mieux aimé le court-métrage que le long-métrage. Voilà, moi, Dissidente, je connais la vraie...
Ah, mais elle n'a pas détesté le
long-métrage. Non, elle n'a pas détesté, mais elle a fait en sorte, c'est son vote, plus un autre vote d'une femme, qui ont fait que ce film n'a pas été récompensé.
D'accord.
Il aurait dû avoir le prix spécial du jury.
Parce qu'elle préférait le court-métrage.
Elle préférait le court-métrage. Comme moi, je sais ce qui s'est passé dans Dissidente, je connais l'histoire du film, et je l'ai quand même mis là, mais c'est pour ça qu'à Annonay, je ne voulais pas qu'il soit récompensé, parce que je connais l'histoire de ce film. L'histoire, je ne l'ai pas lue, il n'en a pas parlé à la presse, visiblement, mais moi je l'ai interviewé, le réalisateur, je sais d'où vient ce film. J'en parlerai peut-être. Donc c'est pourquoi Quitter la nuit, parce que c'est l'histoire d'un call center. C'était uniquement le call center au départ, le court-métrage. Où là, c'est très... on pense à Gilpi, le film danois ou norvégien. Le prisonnier qui un film très anxiogène aussi. Et là ce film... Et ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est l'ambiguïté des personnages. Dans ce film, personne n'est clair. Tous les personnages composés par la résidence sont ambigus. La violée est ambiguë. Le violeur encore plus. La mère est ambiguë. La policière, n'en parlons pas, elle est complètement ambiguë aussi. C'est-à-dire que tous ces gens-là ne sont pas blancs ou noirs, ils sont tous gris dans ce film. Et composer des personnages comme ça, il faut être une bonne scénariste. Alors, c'est vrai que ce film a des défauts. C'est que pour montrer l'ambiguïté au cinéma... Il faut une grande rigueur et une grande précision, sinon ça patauge sérieusement. Et là, effectivement, c'est pas toujours très bien maîtrisé, ce qui fait que ça patauge. Mais elle met effectivement bien en exergue toute cette complexité des personnages. Tu pourras en reparler si tu veux. C'est pour ça que ce film, je tenais à ce qu'il soit récompensé et j'ai pas pu. J'ai été constamment désavoué. J'ai pas pu. C'est deux femmes qui ont fait le vote. Comme quoi, c'est curieux parce que le film qu'on a récompensé en prix spécial, c'est un film qui avait eu qu'une voix. Deux voix en quatrième position au premier tour. Et il se retrouve récompensé.
Oui, les mystères. Les mystères. De...
Tu vas le vivre aussi, les mystères de. Bon. Donc, voilà, c'est mon film en position 3, Quitter la nuit de Delphine Girard, qui est un premier film, je trouve, quand même très, très réussi.
Je trouve aussi. Eh bien, je laisse la parole à Arnaud.
Oui. Eh ben, en parlant d'ambiguïté, donc en 3 mai, décembre.
Ah,
bien. Voilà. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, mais donc le film sur un sujet pas forcément effectivement évident, avec par contre une lumière très très bien travaillée, très chouette. J'ajouterais quand même un petit truc, c'est que il y a des moments où on sombre presque dans le film noir, c'est-à-dire que dans les relations Nathalie Portman et Julianne Moore, il y a un truc vénéneux qui se passe à plusieurs moments. Bref, le film a beaucoup de qualité.
En tout cas, moi, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas pu voir le film, mais connaissant le travail de Todd Haynes jusqu'à présent, tu ne m'étonnes pas du tout en me disant que quelque chose de vénéneux est présent dans cette histoire. Car c'est comme un réalisateur qui, à travers ses différents films, a laissé la trace du venin, si on veut dire.
Oui, alors là, complètement. Enfin, bref.
Merci. Vincent, ton numéro 3.
Mon 3, c'est effectivement Civil War d'Alex Garland. Ça a été un coup de poing dans l'estomac, hein, clairement, de ce début d'année. Moi, je suis photographe. Hein. Beaucoup de gens qui ne me connaissent pas tellement savent. Et la photographie, c'est un peu ma passion, quand même. Et ça m'a fait grand plaisir de voir mis en avant, avant toute chose, et comme tu le dis, hein, Arnaud, avant la guerre civile, qui est qui se drape en fond du film. Le métier de photographe de guerre, c'est un métier en voie de disparition, si on peut dire, ou en tout cas qui n'est plus vraiment à la gloire qu'il a connue. La gloire de Life Magazine, des années 60-70, le Vietnam, par exemple, qui a donné, et même les années 40-50. Ce qui est très fort dans le film Civil War, c'est que ça aurait pu être anecdotique, ça aurait pu être traité par la petite boule de la lorgnette, et sans détail, sans précision. Or, non, le film est extrêmement bien détaillé sur ce thème-là, sur le retour à l'argentique. Il y a une séquence entière où on voit la jeune apprentie passer du temps à scanner sa pellicule au bord dans un stade désaffecté, et elle utilise son smartphone pour faire du négatif au positif. Moi, je me suis dit, waouh, quand même, c'est précis, et ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire récupérer l'image. Et quand on parle effectivement de témoigner, d'être présent là où l'horreur nous indiquerait de rebrousser chemin, mais malgré d'être présent et témoin sans partie liée, sans aller au-delà, sans assister, aider, défendre, voire sauver, là, il faut juste être témoin.
C'est vraiment intéressant, Vincent, mais du coup, ça me fait repenser à un truc sur le film, tu disais effectivement être sur le terrain, témoigner et tout, et savoir jusqu'où on peut aller, ainsi de suite. Mais Il y a aussi un côté intéressant, c'est que tu as un personnage aussi dans le film qui jouit.
Oui.
Qui jouit de l'horreur qui se déroule autour de lui. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'il n'y a pas que des personnages qui sont là pour témoigner, qui sont là pour, avec une éthique aussi.
Absolument.
Il y a ce personnage qui, moi, je trouve finalement assez détestable quelque part.
Clairement.
Qui, lui, jouit de ce qu'il est en train de montrer. Et ça, je pense que c'est... Il a rajouté, je pense, ça dans les éléments de ton scénario. Et c'est très intéressant. Parce que je pense qu'au-delà de ça, tu as aussi ce regard aussi sur tout un cinéma qui montre l'horreur, et notamment l'horreur de la guerre et les choses les plus violentes et les plus extrêmes, et avec des spectateurs qui jouissent de ça. Et je pense que Garland, il nous parle aussi de ça dans ce film. Et ça, c'est très intéressant aussi, je pense.
Voilà, pour dire que, pour finir, c'est effectivement, et la séquence que tu évoquais tout à l'heure, qui est viscéralement glauque et très très désagréable à regarder en salle, et il va jusqu'au bout de la chose, il se passe ça en fait, quand tout part en sucette, entre guillemets, et en cacahuète, je sais pas comment on peut dire, les plus vils instincts réémergent, et là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment se trouve dans une situation comme ça, où on n'a plus qu'à attendre, ou survivre ou mourir en fait? Et cette ambivalence en fait de destinée, en un clic de mitraillette en fait, c'est quelque chose qui est dur à reproduire, enfin, c'est pas si facile que ça à reproduire au cinéma. Il fallait le génie de l'acteur. Moi, j'ai plus son nom, mais c'est un acteur fascinant qui joue cette séquence-là, qui prend ce mauvais rôle, ce désagréable rôle. Et ça ne pourrait être parfait que s'il n'y avait pas la Kirsten Dunst, entre autres, qui est magnifique, qui ressurgit comme ça dans le cinéma, alors qu'on l'a vraiment un peu mis de côté depuis des années. Et je trouve qu'elle est burinée, elle est très bien. Savoir que bientôt, là, Lee Miller, un beau portrait sur une photographe de guerre, va sortir bientôt à guetter, parce que je pense que ça vaudra le coup, sachant qu'en fait, il y a eu un énorme contingent de photographes femmes de métiers de guerre. Et qui ont signé énormément de photographies très connues. Voilà.
Okay. Oui, effectivement, dont on ne parle pas suffisamment. Et merci. Oui,
beaucoup
merci
sont mortes pendant le Vietnam. En fait, j'ai suivi 2-3 photographes, effectivement, comme Capa, qui sont allés trop près, et qui sont pas revenus. Mmh. Ouais.
Ah, merci beaucoup, Vincent. Ouais, je te rejoins sur tes propos concernant Civil War. Sur l'horreur de la guerre, je vais aussi rebondir sur cet aspect-là, malheureusement, car il y a un film que j'ai rajouté dans mon top 5, et c'est donc mon numéro 3, La Zone d'intérêt, de Jonathan Glazer, dans The Zone of the Interest, qui m'a beaucoup retourné, qui est vraiment pas facile. Donc c'est le film qui se passe à côté du camp d'Auschwitz, donc dans la famille du commandant Haus, et qui est le responsable, le chef du camp d'Auschwitz. Et donc il vit à côté du camp avec sa famille dans une maison plutôt agréable avec un très beau jardin, piscine, tout se passe bien, sauf que à côté, c'est juste un camp de la mort. Et Jonathan Glazer, je trouve que il est, c'est, je trouve assez intelligent comment du coup il parle de cette horreur sans la montrer, et beaucoup par le son. C'est énormément suggéré par la bande son qui rend vraiment visible ce hors champ. C'est ce que je trouvais vraiment intéressant. Et puis aussi le jeu des acteurs actrices, notamment Sandra Hüller, qui avait joué dans Anatomie d'une chute et qu'on retrouve là dans la femme du commandant, qui est vraiment bluffante dans son caractère et son envie d'évoluer de classe sociale et du coup de ne penser qu'à elle, à sa famille, alors qu'à côté, des milliers de gens sont en train de se faire calciner, cramer. Et donc voilà, ce film, je pense que l'image va beaucoup me marquer, les scènes et le son. Je pense que beaucoup de choses vont me rester longtemps. Et ça, c'est aussi le pouvoir du cinéma. Et malheureusement, c'est pour un film qui nous montre une horreur, les horreurs de la guerre. Et c'est, même s'il y a eu beaucoup de films sur la Shoah, c'en est un de plus. Mais je le vois plutôt comme une piqûre de rappel, parce que encore une fois, on le voit actuellement. Voilà, la montée de l'extrême droite qui nous rattrape, l'histoire qui se répète. J'espère qu'on n'ira pas plus loin. Mais voilà, ça fait partie de mon... C'est mon numéro 3, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Eh bien, Gob, pour le numéro 2.
Ouais, on enchaîne.
Oui, on enchaîne. Et après, on fera une petite pause avant le number one, j'y arrive plus. Alors, un film dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est le film de Yorgos Lanthimos, Pauvre créature. Bon, voilà, je ne vais pas revenir trop sur ce que vous avez, je pense que vous avez dit dans l'ensemble l'essentiel. Comme tu le disais, Vincent, moi je trouve que c'est quand même c'est du cinéma à tous les étages. C'est vrai, l'image, le travail sur le noir et blanc au début, ces références complètement dingues à Frankenstein, à toute une littérature fantastique et gothique victorienne. C'est vrai que ça part dans tous les sens, mais c'est tellement, il y a des scènes tellement extraordinaires, il y a une telle profusion d'images. Alors tu le disais, c'est vrai que par moments on frôle l'indigestion, parce que c'est un tel faiseur d'images qui, il veut en mettre tellement, c'est incroyable, mais quelle soif, quelle fin de cinéma à ce Yorgos Lanthimos. C'est, moi j'ai, franchement, tu vas au cinéma pour ça, quoi, aussi. Tu vas pour voir des films, des filmeurs. Et là, c'est un filmeur extraordinaire. Et c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai, et Céline, je te rejoins là-dessus aussi. C'est vrai que la partie parisienne s'enlise un petit peu par moments. C'est vrai qu'on peut remettre en question sa manière de parler de l'émancipation féminine. C'est vrai, on peut remettre ça en question. Mais moi, finalement, je me dis, c'est vrai que c'est un type... Dans tous ses films, il a fait ça depuis le départ. Il aime jouer d'une certaine provocation. Je pense qu'il en est très content. Il doit bien rigoler devant sa table de montage, de jouer d'une certaine provocation. Il sait qu'il va fâcher des gens. Il sait qu'il va énerver des gens. Mais à l'arrivée, je pense que c'est tellement fort en termes de cinéma. C'est tellement scotchant. C'est tellement bluffant. Moi, franchement, je suis sorti en me disant, j'ai vu un festin de cinéma. Et donc, forcément... Je sors ravi et bah, j'oublie les scories, j'oublie les petites choses qui font que c'est sans doute pas le chef-d'œuvre parfait, mais quand même, quel réalisateur selon Thibault. Et effectivement, comme tu le disais, Vincent, moi j'attends déjà avec impatience le film, prochain, ouais. Le film suivant.
Celui qui a été sélectionné à Cannes.
Voilà, tout à fait.
Oui. Merci Gob. Claude, ton numéro 2 ?
Le numéro 2, c'est un film dont on a déjà parlé qui s'appelle « Le mal n'existe pas ». Moi, c'est un film difficile, qui n'est pas toujours très lisible. Je ne reviendrai pas sur l'interprétation que l'on a de la fin, Céline. Et j'attends que le film soit sur Canal+, ou soit en DVD, pour vraiment faire du séquencé plan par plan.
Image par image.
Image par image, voilà. pour vraiment voir cette fin qui pour moi, pour l'instant, je ne me prononce pas. Donc, c'est quand même un film, bon, je ne vais pas reparler du film, où il utilise quand même beaucoup de métaphores, notre ami japonais. Alors, la métaphore, c'est très bien, mais parfois, j'ai l'impression que le film se perd dans la forêt. Et il y a surtout une chose qui m'a beaucoup gêné compte tenu de ses propos et du message qu'il veut faire passer, c'est que, je me répète parce que j'ai déjà dit, la forêt comme les rivières, ce sont des bruits naturels. Sur la forêt, il y a des craquements, il y a une forêt, ça vit. Et là, il colle une musique là-dessus. Alors moi, je trouve ça... Je trouve ça complètement, d'une part, inopérant et relativement absurde, parce que c'est pas les propos. Il essaye de faire un film écologique et il colle de la musique sur le naturel. Ça, j'ai pas bien, ça me gêne. Parce que, et le propos de la fin, moi, je ne me prononce pas encore. J'attends de pouvoir séquencer le film.
Et pourtant, c'est ton numéro 2.
Oui, c'est mon numéro 2, parce que...
Claude émet des réserves.
Qu'est-ce que le numéro 1 va prendre
C'est bien, Claude. Plus les films montent dans ton classement, plus tu émets des réserves.
Non,
c'est...
Parce que je...
Qui aime bien, châtie bien, Claude. C'est exactement ça.
Oui, c'est ça. Parce que je trouve quand même que dans sa... Il fait une mise en scène relativement audacieuse. Contrairement à ce qu'on pense, il fait une mise en scène qui n'est pas évidente, qui est audacieuse. Il faut rentrer dans ce film. Si on reste à la surface, on va rien comprendre. Ouais,
mais Claude, ceci dit, je suis parfaitement d'accord avec toi sur l'audace de la mise en scène.
Oui, il y a une audace
parce que
de la mise en
scène. Il y a cette scène d'ouverture dans les branches.
Les branches, oui.
Et moi, je dis, il faut oser faire une scène comme ça.
Oui, oui, oui.
Aussi, étirer autant une scène, laisser le spectateur dans un espèce d'inconfort par rapport à ce qu'il voit. En même temps, il se dit, c'est beau, et en même temps, t'es dans l'inconfort. Et moi, je dis, ça effectivement, ça, c'est l'audace cinématographique.
C'est pour ça que je suis partagé sur ce film, mais je veux dire, il essaye une narration qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Et rien que pour moi, si ça pose certains problèmes, ça mérite quand même d'être récompensé.
Merci, Claude. Arnaud, ton numéro 2.
Numéro 2, Les Chambres Rouges de Pascal Plante avec Juliette Gariepy et Laurie Fortin-Babin. Sujet difficile.
On va en parler collégialement, c'est honteux aussi. Hein.
Je m'en doutais un peu. Je me disais, tiens, il ne l'a pas encore mis. Donc, il s'agit au départ d'un procès d'un tueur en série qui, pour moi, est un peu plus qu'un tueur en série parce que ce n'est pas juste qu'il est assassin multiple. Il filme et revend
sur le web
donc ses actions. Et donc là où le film commence, il est en jugement et on va suivre deux jeunes femmes qui au départ ne se connaissent pas, qui suivent le procès avec grand intérêt. L'une reste plutôt en retrait, silencieuse, et assiste à tout ça. L'autre, elle, comme on a déjà vu sur des cas similaires, est fan du méchant au point de penser absolument et d'être convaincue qu'il est innocent et que c'est une machination. Enfin, bref, peu importe. Le film va au fur et à mesure nous faire découvrir surtout le caractère du premier personnage féminin qui est très taiseux et qui, pour le coup, a beaucoup de parts d'ombre. Oui. Bref, la mise en scène était plutôt intéressante et nous amenant sur des terrains parfois qui étaient assez glissants. Ouais.
Alors, précisons que c'est un film québécois.
Oui.
Et c'est le renouveau du cinéma québécois que je trouve musclé comme jamais. Ce film, il est passé très inaperçu. On l'a vu, moi j'avais vu une bande-annonce rapidement un peu avant. Et vraiment, on en a parlé un peu autour de nous. Vous en avez entendu parler ? Non.
Alors, du coup,
nous on y est allés, on pensait pas que ce serait une claque pareille. Franchement, c'est un film extrêmement déplaisant à comprendre psychiquement parce que c'est vraiment glauquissime sans rien voir. On ne voit rien, on ne verra rien, bien évidemment.
Ça, c'est bien.
Et ça, c'est extrêmement...
Suggéré.
Tout est suggéré. Mais c'est abyssal de noirceur. Mais noir... Jamais vu un truc pareil. Rarement vu un truc pareil. Il y a Vidéodrome dans une autre époque avec Cronenberg. Bon, ce thème de la... Parce que les chambres rouges, c'est ça. Hein, c'est des chambres de torture, mise en ligne. Sur le dark web, on paye en bitcoins très cher pour assister à la mort de quelqu'un et sans repaître. C'est le principe du film. Donc, et notre actrice principale, très, très, très maître, très, très peu diserte, effectivement. Mais grande tige comme ça, on va découvrir un peu qu'elle est fascinée par l'abysse, quoi, justement. Et donc, c'est un film qui est rentre dedans, mais très subtil. Et on ne verra rien, mais c'est le comportement des personnes qui est flippant à mort, quoi. Franchement, on avait rarement vu quelque chose d'aussi simple et d'aussi efficace. Et ça vient du Québec. Et moi, je trouve que c'est chouette, ça, parce que franchement, et les deux actrices principales sont extrêmement justes.
Sont justes, les personnes.
Dans leur ambivalence.
Oui, elles sont très complémentaires. Comme je disais, il y en a une qui est un peu plus exubérante, etc., qui parle tout le temps, un peu trop. Mais bon, voilà.
Il y a du suspect. Il y a des rebondissements jusqu'à la dernière minute. En plus, c'est machiavélique jusqu'au bout. Ouais.
D'accord. Donc, Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Ok. Eh bien, il faudra essayer de le voir sur un autre canal. Eh bien, moi, mon numéro 2, c'est un film japonais de Koreeda. Donc, c'est le réalisateur Koreeda, Hirokazu Koreeda, L'innocence. Un film qui est passé en début d'année. En début d'année. et c'est un film qui traite du harcèlement scolaire. Mais d'une façon intéressante, parce que le film est construit avec différents points de vue. trois points de vue, trois temps. Il montre en fait que un point de vue peut ne pas suffire en fait, et que pour vraiment comprendre une situation, c'est important d'avoir différents points de vue, et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est déjà vu dans d'autres films sur ce principe. Ça a déjà été fait. Et Kore-eda utilise ce dispositif pour parler du harcèlement scolaire et que c'est pas si simple de comprendre aussi ce qui se passe avec les enfants, les relations qu'ont les enfants entre eux, et je trouvais que c'était assez malin d'avoir pu insister sur ces trois points de vue pour essayer d'obtenir une certaine vérité. Voilà pour mon numéro 2.
Oui, moi je suis un grand admirateur de Kore-eda. Je suis un grand admirateur du cinéma japonais en général, mais j'ai toujours adoré ce qu'a fait Kore-eda Shikarbanon. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous. Je l'avais dit déjà ici au micro, moi j'adore tout ce qui se passe dans la forêt avec les enfants. Là, c'est du Kore-eda majuscule. Il fait ça tellement bien, cette espèce d'ambiance bucolique, ce regard sur l'enfance. C'est vraiment le plus grand, je pense, cinéaste contemporain à ce niveau-là. Le reste, toute l'histoire autour de la mère, du professeur, je trouve que on a déjà vu ça et c'est un peu moins. Mais voilà, c'est des réalisateurs dont on attend tellement à chaque film, que forcément, quand c'est un petit peu en dessous que l'excellence habituelle, on est forcément un petit peu déçu. Mais c'est quand même un beau film.
Non, mais je comprends ta position. Moi, j'étais quand même conquise. Voilà mon numéro 2. Eh bien, on passe au number 1. Allez,
Gop. Une pause entre le...
On fait une petite pause. Vous voulez faire une pause? D'accord.
Vous réclamez... Une pause avant le numéro 1.
Eh bien...
Vous une pause.
Eh bien, d'accord. Vous n'aurez pas encore notre number 1. Et donc, on vous propose une pause musicale avec une autre bande originale d'un film dont le son est très important, et j'en ai parlé, c'est de Zone of Interest. Et donc on écoute un passage de la bande originale et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus Orléans. Thank you. Et voilà, c'était le travail de Mika Levy qu'on vient d'écouter. Donc la bande originale du film The Zone of the Interest de Jonathan Glazer. Voilà, donc on est toujours sur Radio Campus Orléans, l'émission Alors on se fait un film, émission spéciale Top 5. Voilà une émission de 2 heures, mais on arrive à la fin. Avec le number one.
Eh ben écoute, le numéro un, on vient d'écouter la musique. Et pour moi, c'est un numéro un absolument incontestable. Il y a absolument pas de concurrence pour moi sur la première place. C'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. C'est un film extraordinaire. Moi, je suis sorti, tu disais tout à l'heure, Céline, que tu étais sorti secoué. Moi, je suis sorti plus que secoué. C'est extraordinaire. Ouais, des fois, il y a des films, tu as même du mal à en parler, à les analyser, parce que quand tu sors, tu es dans l'émotion brute, ouais, totale. Et moi, ce film, il m'a mis dans cet état d'émotion brute et totale. Après, bon, tu y repenses, tu réfléchis un petit peu au film, à la manière dont il est construit, dont il est fait. Et là, tu te rends compte, effectivement, du talent de Glazer. Tu parlais tout à l'heure du son, c'est vrai. Quel travail sur le son. Moi, j'ai rarement vu un film avec un travail aussi extraordinaire sur le son au niveau, effectivement, comme tu disais, de la suggestion. Tout ce qui fait passer, toute l'horreur qui fait passer par le son, c'est extraordinaire. Et tout le film est à cette image. Ce travail, cette manière de nous montrer... la beauté, c'est parce que c'est ça le fond du film, c'est la beauté dans l'horreur, c'est-à-dire que ces jardins impeccables, il y a cette scène extraordinaire où elle fait visiter la maison et le jardin à sa mère, et avec ce travelling où on voit le mur derrière, et là tout le film est là. Mm-hmm. Tout le film est là parce qu'on est vraiment dans on est dans du cinéma d'une beauté totale. Et ce cinéma d'une beauté totale nous invite à réfléchir et à nous émouvoir sur une horreur totale historique qu'on connaît. Et ça, c'est cinématographiquement, tu te dis quand même, ce metteur en scène quand même, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là ? Voilà. Et moi, c'était comme ça pendant tout le film. Et c'est étourdissant, quoi. À partir du moment où tu rentres dans ce dispositif, à partir du moment où tu comprends cette logique, ce fonctionnement du film, t'es pris définitivement et tu es dans un moment de cinéma exceptionnel. Voilà. Et c'est pour ça que moi, ce film, c'est un numéro un absolument incontestable. Et on en parlait hors micro avec Claude tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même de fortes chances qu'il ne soit pas détrôné d'ici la fin de l'année. Ah. Voilà.
Et donc, bien, Claude, numéro un, moi, c'est un film où le process narratif est basé sur le hors-champ. Et le hors-champ, c'est je ne sais plus quel cinéaste a dit, le travelling est une histoire de morale. Et moi, je dis que le hors-champ est une affaire de tact.
C'est Godard qui a dit ça.
C'est Godard, oui. Je crois que c'était...
Je crois que c'est Godard, mais bon, enfin, peu importe. On vérifiera.
Bref, bon, toujours est-il que le hors-champ est une affaire de tact. Moi, j'ai eu l'occasion de voir dans la même journée 2 films où le process narratif était le hors-champ. Un qui est parfaitement réussi, on voyait très bien l'emprise du père sur sa fille, et un où finalement, on comprenait pas parce qu'il n'y avait pas assez de données. Le hors-champ, ça demande du tact. Où il y a trop de données, où il n'y en a pas assez. Donc, bien évidemment, vous avez deviné que le film dont je parle est La Zone d'intérêt. C'est-à-dire faire exister quelque chose que vous ne verrez pas et que vous n'allez pas voir. Et ça, c'est quand même très fort. Donc, il y a le hors-champ visuel, il y a le hors-champ sonore dans ce film. Et il y a surtout, c'est pas du tout un film sur la Shoah, c'est un film sur un haut fonctionnaire de l'appareil nazi et ce qui est montré sur son détachement total, mais total, vis-à-vis de son métier. Tout au moins de ce qu'il fait subir à ces gens. Et j'en veux pour preuve que quand il y a une scène terrible, c'est quand il va voir son supérieur, ou je sais plus, avec, en disant « je vais améliorer le processus ». Vous voyez, on peut gagner tant de... C'est glaçant de voir ça. Mm-hmm. Je vais arrêter parce que Xavier on a très bien parlé. J'ai toujours pour habitude de dire qu'un très grand film, il doit d'abord avoir Il doit avoir une portée universelle. Ce film a une portée universelle. On pourra le revoir dans 10, 15 ou 20 ans. C'est du niveau des damnés, c'est du niveau d'Apocalypse Now. Donc on pourra le revoir dans 20 ans, il sera toujours, on comprendra toujours. Deux, il doit avoir une portée philosophique ou politique importante. Et trois, avoir une écriture cinématographique. Et il coche les trois cases. Donc pour moi, je crois qu'à la fin de l'année, je ne pense pas qu'on puisse trouver un film qui va détrôner La Zone d'intérêt.
Merci Claude. Arnaud, ton numéro 1
Alors... On parlait de hors-champ. Bon, bah oui, forcément, oui, La Zone d'intérêt.
Eh bé
La Zone d'intérêt.
Quelle unanimité.
Alors, évidemment, je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit.
Non, mais dis ce que tu en penses, si, c'est intéressant.
Non, mais... Je c'est pas tellement la beauté, en fait. C'est-à-dire que, d'un côté, donc, de ce camp... On est vraiment tout juste collé, hein. C'est pas la rue, c'est même pas tu traverses la rue, hein. C'est. Il y a un couple qui vit une vie d'une banalité et qui sont emmerdants comme c'est pas permis, alors qu'à côté justement il se passe quelque chose de terrible qu'on ne voit pas mais on sait parce que c'est le sujet. On est, je veux dire, bon, on le sait bien. Et toutes leurs histoires de « est-ce que tu vas être muté ? Je veux pas déménager », etc., etc., ça prend une dimension dans l'horreur qui est la banalité de l'horreur. Quoi.
Oui, la banalité, on est chez la rente. Hein.
C'est assez terrible, donc voilà. Petite chose que j'avoue que je reproche un petit peu au film, juste un tout petit truc... C'est les plans noir et blanc de nuit. Je sais même pas
thermique.
Si c'est du.
C'est de l'image thermique.
Oui, c'est de l'image
thermique. Je sais pas. Je trouve que là, il a fait une entorse à son dispositif qu'il aurait pu éviter de faire parce que justement, l'intérêt, c'était vraiment.
Mais moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit que ça serait certainement intéressant, du coup, de pouvoir lui demander à Jonathan Glazer pourquoi il y a ce moment-là. Certainement qu'il y a une.
Sans doute.
Voilà, mais c'est vrai que là, tu posais la question.
Cette entorse visuelle, enfin stylistique, tout le reste du film.
Ah, mais alors, pour moi, c'est le peuple autour qui a conscience de ce qui se passe et qui cherche à les aider, en fait.
Ouais.
C'est un peu la. C'est le négatif de cette atrocité, c'est qu'il y a des gens quand même à côté qui n'ont rien, qui vivent dans des conditions un peu difficiles, mais qui vont essayer de les aider.
J'ai pas trouvé ça évident, ou du moins, je sais pas, c'est la façon dont ça s'insère dans le dispositif qui... Bon, mais de toute façon, voilà, pour... C'est une broutille par rapport à tout le reste. Et encore une fois, la mécanique, quand ils font leur réunion à la con pour la productivité, etc.
Mais tu sais que, Arnaud, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis là que tu as rebondi sur la banalité de leur quotidien et l'horreur qui se passe. Parce que je pense, tu vois, finalement, j'y pense maintenant. Tu vois, c'est intéressant de parler des films avec vous, avec d'autres. C'est finalement, tu vois, maintenant, je me dis que. Au-delà du camp d'Auschwitz et de la réalité historique dont il nous parle, je pense que ce dont il nous parle aussi, c'est de, effectivement, nous tous qui vivons au quotidien, notre petite vie banale, et qui sommes entourés par des horreurs. Et je pense que peut-être aussi, tu peux voir les choses un petit peu comme ça. Si t'extrapoles un petit peu.
Oui, tout à fait.
Voilà, bon. Comme tous les grands films, ça... Tu peux aussi avoir des interprétations encore plus ouvertes.
Tout à fait. Là, il se trouve que les personnages sont tout à fait conscients de ce qui se passe, mais effectivement, on peut extrapoler. Ça, y a pas de
détachement total. Enfin, je veux dire.
Merci Arnaud. Alors Vincent, est-ce que ce numéro 1...
J'attendais de pouvoir parler, hein, mais c'est... ça va être la zone d'intérêt aussi, clairement.
Ah là là.
Clairement,
okay.
Clairement. Alors, par où démarrer ? Moi, je suis je suis assez passionné par ce thème depuis longtemps, parce qu'il est cinématographique, parce qu'il est documenté. Il y a un jalon... inclassable dans l'histoire du cinéma, c'est les 9 heures de Shoah de Lanzmann. Lanzmann avait arrêté les choses, il avait dit la Shoah n'est pas pour la fiction, ça ne pourrait être que du documentaire. En gros, il a calmé le jeu, il dit je serai le seul à faire le seul film sur le thème. Et il y a eu des fictions après, avant, Bon, il a beaucoup critiqué Schindler.
Oui, beaucoup,
beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et Benigni, qu'est-ce qu'il a mis à Benigni,
voilà.
Lanzmann.
Les films ont eu leur vie, ils ont témoigné à leur façon. Très récemment, il y a eu le fils de Saul, qui a proposé lui aussi à Cannes un angle sur la Shoah. Avec beaucoup de hors-champ déjà, avec une viscéralité, une caméra très close-up, très proche, du flou derrière et partout. Et on était collé à un des Sonderkommando, point barre. Voilà, c'est simple, c'est physique. On est très proche de la mort, sans la voir vraiment. Là, le parti pris extraordinaire et fascinant. Alors, le bouquin, je suis en train de le lire, hein, le Martin Amis, pour voir à quoi ça ressemble. La méthode n'est pas la même. Il a été plus fort, moi, je trouve, le cinéaste. Glaser, il va plus loin que le romancier. Parce que sa mécanique de mise en scène est extraordinairement filmique. Le bouquin, c'est le bouquin. Le cinéma permet des choses génialissimes, comme le hors-champ, en sonore et visuel. Et dans un plan fixe ou dans un plan mouvant. Et moi, j'ai trouvé le truc dès le départ obsessionnellement hypnotique, mais alors exigeant. Le seul point que je peux dire, c'est que le film, il n'est visible, il n'est que captable sensoriellement pour celui qui le voit que s'il connaît l'histoire, un peu, de cette période. Celui qui ne connaît pas Auschwitz 1, comment ça fonctionnait, ou Auschwitz 2, là on est sur Auschwitz 1, c'est-à-dire le camp initial, le camp qui est dans la ville d'Auschwitz, c'est pas Birkenau, la grande usine de mort. Là on est sur un camp qui est une ancienne caserne, et effectivement la proximité de cette ville-là, à un pâté de maisons, à une rue à traverser, de la mort en chaîne, il n'y a que ça qui peut faire qu'on est dans le film encore plus fort.
Justement, je pense que il a fait le film, comme tu disais, comme tu le dis, Vincent.
C'est une abstraction pour beaucoup de gens qui connaissent.
Il a fait le film en fonction aussi de... Il sait... Quand il fait son film, il sait que s'il y a bien un fait historique, un événement historique qu'on va dire tout le monde connaît, que tout spectateur qui rentre dans le film va connaître.
Comme disait Céline, attention, Céline le disait tout à l'heure, ça s'étiole ça. Et le film, il n'est pas exclu que dans quelques temps, ce sera une abstraction pour les jeunes générations. Moi, je trouve qu'il est intéressant,
peut-être
une piqûre de rappel, comme tu le disais très bien tout à l'heure, parce qu'il assume les choses, il affirme avec force la mécanique de mort politique. Et comment elle peut être obscène dans sa méthodologie de clinique, quoi. Et la séquence des plans de masse, extraordinaire. On discute efficacité, cadence. Voilà, rigueur, comment améliorer la tâche. Et Rudolf Höss, qui a écrit sur son expérience, parce qu'avant d'être pendu, il a fait un livre qui a été repris par Robert Merle, La mort est mon métier. Il a expliqué ça, hein, la banalité de la chose, et obéir aux ordres, point barre. C'est comme le mec qui organise les trains de la Reichsbahn, qui faisait payer d'ailleurs au Reich les transferts. Tout ça, c'est extraordinaire. Moi, c'est un film impossible de ne pas le voir, comme vous dites, parce qu'il est très important. Il se met en brique dans les récits de la Shoah.
Je vais glisser un tout petit mot. Tu parlais t'as parlé à plusieurs reprises de ces scènes là, et Claude en a parlé aussi.
C'est beau à voir.
Où ils se réunissent pour échafauder toute la logistique, si on peut dire. Et j'ai vu, il y a pas si longtemps que ça, un film vraiment intéressant qui s'appelle La Conférence.
Ah oui.
Un film allemand. Qui effectivement raconte ce moment où les nazis se réunissent en 42 pour décider de la logistique de la solution finale. Ouais. Et c'est un film. Alors c'est pas du niveau de la zone d'intérêt, c'est clair, mais c'est pareil, historiquement et en termes de cinéma glaçant et édifiant, c'est un film absolument à voir.
Voilà. Mais bon, pour dire que voilà, c'était vraiment une je repense à, comme tu le disais, Céline, le plan du jardin, avec au loin la raide du mur et la cheminée de la locomotive qui passe, comme ça. C'est salaud, quoi, mais il faut le faire. À savoir qu'aussi, dans le processus nazi, il ne fallait pas oublier que lorsqu'ils avaient créé Treblinka ou les camps qui étaient voués être détruits juste après, ils avaient mis une fausse gare avec des petites décorations, des petites tulipes et tout. Il fallait que les gens qui arrivaient là-bas croient que c'était accueillant, alors que 30 minutes plus tard, ils se faisaient gazé et battre à mort. Voilà.
Mais je pense qu'il tient aussi compte de ça.
Le cynisme de l'élégance et de la beauté, alors qu'on va tuer.
Ouais. Peut-être que ce film, c'est la remarque que tu faisais, peut-être plus fort qu'un documentaire ou le documentaire.
Sans doute. Ouais.
Tu es dans l'action, tu vois l'action.
Ou dans le récit, dans le témoignage.
Là, on est complètement. Je veux dire, ça nous amène à réfléchir parce que c'est le détachement. Tu vois pas, mais tu sais ce qui s'est passé. Moi, je crois que c'est...
Pousse plus loin,
je vois pas pourquoi...
En tout cas, c'est intéressant quand on connaît. Il faut être un peu un peu féru du truc, je pense, pour savourer... pas le terme. Pour comprendre mieux le message du film, voilà. Pour le prendre plus dans le bide aussi. Clairement, moi, je suis sorti, je tremblais partout.
Céline, ouais, tu vas nous annoncer ton numéro 1 qui n'est pas,
la zone d'intérêt.
Qui n'est pas la zone d'intérêt.
Savez, vu que c'était mon numéro 3.
Tu as 10 minutes. Mais,
et j'ai. Oui. Alors, vous allez me dire. Alors, c'est pas un film qui est sorti vraiment en 2024, mais il est sorti après notre top 10 de 2023. Je suis désolée, mais comme c'est mon vraiment gros coup de cœur et que je voulais vraiment le mettre en avant parce que je l'ai vraiment adoré et qu'en 2024, j'ai pas encore vraiment eu ce même type de coup de cœur, je l'ai mis là, et c'est le film de Wim Wenders, Perfect Days, qui est sorti fin 2023, en décembre 2023, et Perfect Days, moi ce film qui suit donc le quotidien d'un japonais, Hirayama, un homme qui vit seul et dont le métier est de nettoyer les toilettes publiques.
Ça me revient, ce film.
Voilà, à Tokyo. Et en fait, Wim Wenders, il crée un personnage dont le quotidien est structuré que par des routines. Et donc, il filme tout ça. Mais je pourrais rester des heures à voir sa routine au quotidien, jour après jour.
Qu'est-ce qui t'a fasciné dans cette routine ?
Moi, c'est comment Wenders, il filme. En fait, chaque détail, chaque répétition et cette beauté. En plus, c'est filmé en 4:3. C'est très simple. Et cette simplicité, ça me berce, ça m'emmène. En parallèle, il lui arrive quand même il a des rencontres, des événements qui font qu'on connaît de plus en plus ce personnage, ses fragilités, ses souffrances, et je trouve que c'était vraiment très très bien amené. Je trouve que c'est vraiment c'est fait d'une grande justesse, le cadre, la lumière, tout est c'est bien écrit, j'ai vraiment adoré ce film qui dure 2 heures, mais il aurait pu durer bien plus. Et voilà. Donc et puis le comédien Koji Yakucho, qui a reçu quand même le prix d'interprétation masculine à Cannes en 2023, et était vraiment vraiment mérité, parce que toutes les émotions passées par son regard. Il ne dit pas beaucoup de choses, mais tout passe par son regard, et c'est aussi comment Wenders a pu le diriger et a pu le filmer, et je trouve que c'est beau de voir des plaisirs simples dans notre société qui est vraiment dans la surconsommation, et juste les plaisirs simples avec ses passions de la musique et des livres, et juste de prendre en photo les arbres. Enfin, voilà, ça. Voilà, j'avais besoin de finir sur une note positive et poétique.
C'est bien, hein.
C'est sûr qu'après
après la zone
Auschwitz, une pause bucolique.
un peu, oui, pour essayer de garder espoir malgré tous les événements. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission spéciale, voilà.
Qui finalement a vu une quasi unanimité. Ce qui n'est pas si fréquent quand on fait nos top 5 et nos top 10, ça n'arrive quasiment jamais.
Bah oui. Effectivement.
Voilà, donc. Oui, oui.
Et puis c'est pas
je pense qu'on peut effectivement dire, vu l'unanimité, messieurs, que la zone d'intérêt est quand même un film qui a marqué les esprits, en tout cas les nôtres.
Oui, c'est vrai.
Oui.
J'aurais dû en parler au niveau de l'agenda. Il y a un premier film qui sort le 19 juin et qui est présenté au CARM en avant-première, que j'ai déjà vu deux fois. Et j'ai fait l'interview d'ailleurs du réalisateur, je pense qu'on pourra le passer le 26 juin. Le film de Karim Ben Salah qui s'appelle Six pieds sur terre. C'est un film.
C'est ton film fétiche, ça, Claude.
C'est pas un film fétiche.
On en a parlé plusieurs fois.
Oui, on en a parlé plusieurs fois parce que c'est. Moi, j'ai trouvé que c'était un film assez jubilatoire. Je ne vais pas vous le raconter. Vous irez voir le film. Et le réalisateur, maintenant, est là au CARM le 19 juin. C'est un roman d'apprentissage cinématographique. Mais c'est vraiment très drôle. Très drôle et très, très profond quand on sait d'où vient le réalisateur.
Très bien.
Qui est un, qui est un franco-brésilo algéro
lituanien.
Oui, non, haïtien aussi. Il a vécu au Sénégal. Son père était diplomate, donc il a vécu dans beaucoup de pays.
Bien, mais oui, parce que voilà, on a, c'est notre top 5, mais si l'année n'est pas terminée.
Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, écrivez-nous.
Écrivez-nous. Voilà,
mais écrivez. Comme on veut ce qu'il a fait, vous écrivez. Et on garantit qu'on ne lira pas votre courrier.
Oui, non, mais allez voir les films, et même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est normal d'avoir aussi des avis différents. On donne juste notre avis, notre point de vue, mais qui n'est pas universel. Et donc, surtout, allez au cinéma, allez éprouver des émotions fortes. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est vivant.
Et à la fin de l'année, on fera 3 heures parce qu'il y aura 10 films.
Il y aura 10 films, oui. D'ailleurs, je remercie aussi Chip Meadow. Donc, normalement, c'est leur créneau. Donc, ils nous ont laissé leur créneau pour qu'on puisse faire notre émission de 2 heures. Mais le cinéma, ça continue. Le deuxième semestre, moi, je suis fan de tous les prochains films qui sont prévus, notamment toute la sélection du Festival de Cannes qui va sortir au fur et à mesure des mois. Et plein de films. Voilà, comme on disait, beaucoup de films qui sortent, donc on va essayer d'aller les voir et
de distinguer le bon grain de l'ivraie.
Oui.
Et la dernière émission de la saison, ce sera le 26 juin, et ensuite ce sera pause estivale. Voilà, on prend quelques vacances avant de revenir à la rentrée en septembre.
Merci en tout cas de nous avoir accueillis pour cette magnifique émission.
Vous revenez quand vous voulez, les gars. Hein.
Il est possible qu'on
vous invite quand vous voulez. Il n'y a pas de souci.
Il est possible que si on n'est pas de technicien pour nous piloter, il est possible qu'on s'invite un peu plus souvent.
Il n'y a pas de souci. Mais bien sûr, pas de souci.
Si vous venez de nous, on sera présent.
Oui, avec plaisir. On n'a pas de technicien pour le.
Pour l'instant, mais ça ne va pas se faire. Mais sinon, nous, on peut venir. Sachez que même s'il n'y a qu'une émission de par quinzaine, qui vous aide un peu en sous-effectif, on peut être là.
Eh bien, on peut réfléchir à ça, effectivement. En tout cas, auditeurs, merci de nous avoir écoutés, d'avoir été présents et d'être toujours sur Radio Campus Orléans, notre radio préférée. Restez sur les ondes, il y a toujours du bon son. On vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.